Bonsoir et bienvenue sur Agora Côte d'Azur dans Parlons des droits humains, une émission proposée et animée par Martine Monti
et Renaud Broukis,
avec à la réalisation Nancy Zottier. Donc ce soir, nous allons aborder le thème de l'alimentation saine et durable. Selon le rapport de France Stratégie sur l'alimentation, sorti en septembre 2021, dans un contexte de réchauffement climatique qui impacte directement la productivité agricole, nourrir une population qui va encore fortement croître pendant plusieurs décennies crée des défis nouveaux pour les systèmes agroalimentaires mondiaux. Il apparaît clairement que pour bien nourrir toute la planète sans ruiner l'environnement, cela ne peut se faire sans des mutations profondes de l'alimentation, de l'agriculture et des industries agroalimentaires. Aussi, dans ce contexte mondial, chaque territoire doit tenir compte de ses spécificités structurelles pour faire évoluer ses modes de production et ses pratiques alimentaires. La France, dont la production agricole et agroalimentaire est désormais largement déficitaire pour de nombreuses filières, doit accélérer sa transition vers l'agroécologie pour réduire les pressions exercées par l'agriculture sur l'environnement, tout en lui permettant de reconquérir son autonomie alimentaire. En 2014, l'État a mis en place des plans alimentaires territoriaux, les PAT, qui fédèrent les différents acteurs d'un territoire donné autour de la question de l'alimentation, contribuant ainsi à la prise en compte des dimensions sociales, environnementales et économiques de ce territoire. Mais dans de nombreux territoires, des citoyens sensibilisés et préoccupés par l'urgence climatique, la chute de la biodiversité, la problématique de l'eau et de l'alimentation, et par les impacts sociaux associés à ces dérèglements. Donc, ces citoyens s'organisent et réfléchissent pour essayer de changer nos modes de vie et de consommation, remettant en cause le système productiviste et consumériste actuel et en s'appuyant sur le concept de l'alimentation durable. Des associations et des collectifs de producteurs et de consommateurs se montent et cherchent à mettre en avant des modes de production agricole et d'alimentation alternatifs et désirables qui répondent à nos justes besoins tout en créant un lien social. Ce soir, avec Bruno Bazir et Coralie Barbier, nous allons à la rencontre de l'Acampadou, le tiers-lieu nourricier du pays de Fayence, dédié à la promotion de l'alimentation durable, de l'agriculture locale et paysanne et de l'inclusion sociale. Mais auparavant, nous prenons le temps d'une pause musicale pour écouter Respire de Mickey 3D.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite l'histoire de l'être humain, c'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou, qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin.
Bonsoir, donc nos invités, bonjour, Bruno Bazir du collectif Demain Pays de Fayence, La Campadou, et Coralie Barbier, AMAP du Pays de Fayence, La Campadou.
Bonjour.
Donc on va expliquer après un petit peu ce que sont ces collectifs, et l'articulation entre eux. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Donc Bruno.
Donc effectivement, on a créé le collectif Demain Pays de Fayence en 2016 suite au film Demain, avec Cyril Dion, Mélanie Laurent, qui a fait 2 millions d'entrées quand même, et du coup qui abordait énormément de sujets, on peut dire la transition écologique des territoires, et on s'est dit pourquoi on ne montrerait pas ce qui se passe déjà sur nos territoires et les relier par des ateliers et également les différentes associations, donc l'environnement, l'énergie, l'eau, l'alimentation, l'agriculture, l'éducation, la santé, la communication, l'environnement, non, la démocratie, excusez-moi, la mobilité douce, voilà, beaucoup de sujets, même la monnaie locale.
Donc, on va décliner ensuite tous ces sujets. Coralie, vous êtes plutôt attachée à la map du Pays de Fayence, mais quel a été votre parcours pour arriver là?
Oui, alors moi, ça fait 3 ans que je suis en Pays de Fayence. Et j'avais vraiment envie de m'investir dans le territoire local. J'ai un travail où je suis beaucoup à l'international. J'avais envie de recentrer un petit peu, d'être en contact avec des gens du canton. Et j'ai toujours été très intéressée par tout ce qui était alimentation, bien se nourrir, l'alimentation durable, etc. Et donc, effectivement, je suis rentrée en tant que membre de la MAP pour avoir mes petits légumes frais toutes les semaines sans intrants chimiques.
Donc, rappel à MAP.
La MAP, association pour une... Le maintien de l'agriculture paysanne.
Donc du local.
Exactement. Donc c'est vraiment une association qui met en lien les producteurs locaux avec les consommateurs. Et en fait, grâce à la MAP, j'ai découvert la Campadou. J'ai adoré le projet. Et donc aujourd'hui, je suis secrétaire adjointe.
Et en quelques mots, la Campadou, c'est quoi?
Alors, la Campadou, c'est le tiers-lieu nourricier du Pays de Fayence. Donc notre mission, nous, c'est vraiment de promouvoir l'alimentation durable, l'agriculture locale et paysanne et l'inclusion sociale. Alors aujourd'hui, on est un tiers-lieu sans lieu, donc on décline nos activités hors les murs, pour l'instant, en attendant de trouver quelque chose où on pourra s'installer plus durablement.
Ce qui fait que c'est dans les médiathèques, on va faire des ateliers, ça va être aussi des conférences, hein. Donc un certain d'ailleurs, Renaud Broukis, a déjà intervenu sur l'histoire de l'alimentation et de l'agriculture.
Alors Renaud justement a évoqué dans son introduction les plans alimentaires territoriaux. Avant de définir ce que c'est, est-ce que vous pouvez nous donner une idée précise, par exemple, de la production de l'alimentation consommée dans les départements Var et Alpes-Maritimes, qui est produite sur place?
Alors, attention, ouvrez vos oreilles, vous allez prendre peur. Dans le Var, nous sommes à 3% d'autoproduction, et dans le 06, entre 1 à 2%. Ça veut dire que si on a une rupture des réseaux d'approvisionnement, eh ben, en 2 jours, il n'y a plus rien dans les magasins. Donc, on conseille, bien sûr, de faire un peu de stock, d'avoir un peu de stock tampon. Et d'ailleurs, il va y avoir un atelier sur comment constituer ces stocks, comment les renouveler et tout. Parce que, voilà, les tensions internationales actuelles sont telles qu'on risque de se retrouver, comme pendant le Covid, avec des ruptures d'approvisionnement.
Et donc le plan alimentaire territorial est porté par le ministère de l'Agriculture, c'est au niveau national et décliné localement.
Alors voilà, on a de la chance que maintenant les pouvoirs publics ont pris les choses en main. Et on a commencé il y a 3-4 ans avec donc des ateliers participatifs dans le cadre du plan alimentaire territorial. Et on a émis cette idée d'avoir ce tiers-lieu nourricier qui fait du lien entre les producteurs et les consommateurs, de façon à diminuer un peu ce risque au niveau de l'alimentation. Donc, je pense qu'on va décliner ça en rentrant dans le
détail.
Oui,
justement, voilà, je voudrais revenir sur ce qu'est le tiers-lieu. Alors, effectivement, hors les murs, dans des locaux, c'est un espace de sociabilité. Il y a des gens de différents horizons. On est toujours sur la responsabilité sociale, sur la responsabilité environnementale. mais comment vous pourriez le définir plus concrètement ? De l'extérieur, je ne vous le cache pas, ça paraît toujours un peu flou. Riche, mais flou.
Je pense que c'est déjà une bonne définition. Alors pour moi, je sais qu'en interne, on utilise, nous, une définition dont je ne me rappelle jamais vraiment, mais pour moi, ce qui définirait vraiment un tiers-lieu, c'est d'abord la convivialité et le partage. C'est une communauté qui se rejoint autour de, d'un intérêt commun et qui va faire des activités, une action collective sur ça. Et donc, bah, nous, par exemple, c'est tout ce qui est alimentation durable. Donc, ça pourrait se traduire le jour où on aura un lieu avec des jardins partagés, avoir la distribution des produits de la MAP dans ce tiers-lieu, avoir des ateliers et des conférences à cet endroit également. Voilà, donc c'est vraiment tout ce qui a trait à un intérêt commun et des gens qui se réunissent autour de ça dans un esprit vraiment convivial et de fraternité.
Donc pour l'instant, vous vous réunissez dans les différents lieux des associations ou des partenaires ?
Alors en ce moment, on est plutôt, on va plutôt par exemple dans les médiathèques ou alors on trouve des salles de conférences avec l'aide des municipalités pour pouvoir effectuer nos activités.
De pédagogie et de sensibilisation.
Exactement.
D'accord. Alors l'alimentation et l'agriculture sont à l'origine des missions. Vous nous avez parlé des ateliers. Vous pouvez nous expliquer aussi pourquoi vous vous appelez la Campadou ?
Alors, la Campadou, on a voulu, bien sûr, on travaille sur le local, d'utiliser du vocabulaire local. C'est du provençal, donc nous, on l'a écrit en un seul mot pour que ça soit plus facile pour Internet. Mais normalement, c'est L' à Campadou. Et c'est un lieu de réunion par excellence. En provençal, il signifie un endroit où les gens se retrouvent, ils se réunissent.
D'accord, effectivement, c'est un nom qui est tout à fait approprié. Alors, les valeurs qu'on rallie de ce tiers-lieu, on en a déjà un peu évoqué, mais pour vous, qu'est-ce qui est fondamental ? L'humain, la protection du vivant, l'écologie ?
C'est les trois réunis. En fait, une alimentation durable, elle sert à tous ces objectifs. Donc oui, effectivement, nos valeurs, on a la protection du vivant aussi bien à travers l'environnement, prendre soin de la terre, avec des pratiques paysannes qui respectent les écosystèmes, et aussi l'humain, parce que en fait, des aliments sains, forcément, ça ne peut être que bon pour notre santé. Et ensuite de ça, en termes d'inclusion sociale, c'est quelque chose qui est aussi très important pour nous. Et donc ça passe par faciliter l'accès à cette nourriture de qualité à tout le monde, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui.
Non, parce que ça peut être lié soit à des problèmes d'approvisionnement, soit à des problèmes de coûts. On le réévoquera
Exactement.
Un petit peu plus loin. Et est-ce que justement, dans l'implantation, donc vous nous avez dit pas de lieu pour l'instant, géographique, c'est le pays de Fayence ou ça va au-delà ?
Voilà, donc le pays de Fayence, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans le Var. Hein, donc on est juste de l'autre côté de la frontière du 06. Et donc, il y a 9 villages, dont certains sont perchés, presque tous d'ailleurs. Ce qui fait que c'est pas... pas quelque chose de très urbain, on est plutôt vraiment dans un espace rural. Et il y a quelques villages qui sont proches les uns des autres, mais les autres un peu plus éloignés. Donc l'idée, c'est de faire ce lien et d'aller vers les gens dans ces villages de façon à donner toute la dimension du projet sur le territoire.
Et l'implantation sociale, donc vous dites petit village, plutôt campagne pour certains. Quel public avez-vous ? Parce que c'est très différent d'une grande ville.
Oui, c'est vrai, mais en fait, apprendre à bien manger, je pense qu'on peut s'adresser à tout le monde. Dans le sens où on est tous dans la course, on va au plus simple acheter des plats préparés. On se rend bien compte maintenant qu'il y a plein de maladies, des maladies dégénératives même, qui sont apportées par certains produits qu'on ingère. Et qu'on a besoin de rentrer dans tout un écosystème en aidant les producteurs locaux, en traitant également jusqu'à la fin de la chaîne les déchets en local, hein, donc avec du compostage par exemple pour les produits. Et au milieu de ça, se nourrir sainement, ça s'adresse donc à tout le monde. Donc pour le côté social, nous avons mis l'accent sur un projet qui nous tient extrêmement à cœur, c'est les paniers solidaires. Et de façon à ce que des gens qui n'ont déjà pas les moyens d'acheter de la nourriture de qualité puissent y avoir accès, mais surtout apprennent à se servir de ces légumes de saison qu'on ne trouve pas forcément dans tous les commerces. Donc il y a forcément de l'éducation avec ça. Et cette éducation, elle n'est pas destinée à ces gens-là, elle est destinée à tout le monde. C'est très inclusif, il n'y aura pas de différenciation entre des gens qui ont des difficultés et d'autres qui n'en ont pas, mais qui ne savent pas faire.
Coralie, une précision ?
Oui, donc pour compléter ce que Bruno disait sur les paniers solidaires, donc l'idée c'est vraiment de donner accès à des familles plus précaires du pays de Fayence à des aliments sains, donc qui sont techniquement les paniers de légumes de la MAP. Et l'idée, pour le côté vraiment inclusif, c'est justement aussi voilà, ce côté éducatif où on donne des ateliers de cuisine avec une nutritionniste qui permettra en fait à ces gens qui profitent des paniers solidaires aussi d'apprendre à les cuisiner, d'avoir vraiment un objectif à long terme de comprendre l'importance de l'alimentation pour leur santé, pour l'environnement. Et ça, ces ateliers, en fait, ils seront ouverts à tout le monde. Donc l'idée, c'est de faire aucune différence entre des gens qui bénéficiaient de paniers à un prix moindre et des gens qui bénéficiaient des paniers à prix normaux. Et d'autres personnes qui auraient aussi envie d'apprendre à mieux cuisiner.
Et votre public va des enfants aux adultes ou uniquement des adultes ?
Non, ça peut être avec les enfants, bien sûr, oui.
Alors, est-ce qu'on peut brièvement énoncer les membres de ce tiers-lieu ? Donc, on a parlé de la MAP Pays Fayence. Ensuite, après, on y reviendra en détail hein, sur certaines, pour mettre effectivement l'accent sur certaines qui ont une action plus prédominante ou plus aboutie.
Oui, donc en fait, quand il y a eu les discussions autour du PAT, il y a beaucoup d'associations qui sont déjà implémentées sur le territoire, qui en fait se sont trouvées des valeurs vraiment communes et qui ont voulu travailler ensemble et qui ont cofondé la Campadoue. Donc pour les citer, on a l'ABI, l'Association d'information bagnolaise, la MAP du Pays de Fayence, Court-Circuit, Composterie, le collectif de Bruno Demain Pays de Fayence, et ensuite on a les différents maraîchers qui travaillent avec nous à la MAP. Et donc, juste très rapidement, ces associations, elles peuvent travailler aussi bien sur la valorisation des déchets, la production alimentaire, la mise en relation de consommateurs et de producteurs également. Voilà.
Et Court-Circuit, qui est un groupement d'achat alimentaire plutôt sec, hein, et qui fera partie du panier également. Ça complète les fruits et légumes qu'il y a dans le panier.
Alors, effectivement, ça revient un petit peu à l'impression qu'on a, c'est foisonnant. Il y a une diversité de participants. Si je vous pose la question, est-ce que c'est une richesse, vous allez me dire oui. Mais vu l'extérieur, est-ce que ce n'est pas un éparpillement des compétences ? Est-ce que certaines choses ne sont pas faites deux fois ? Comment vous arrivez à articuler tout cela ?
Alors moi, personnellement, je trouve que c'est une richesse. Je trouve ça vraiment super d'être entouré de gens qui ont des profils professionnels aussi variés. On a des maraîchers. On a des enseignants, on a des gens comme moi qui, dans la vie professionnelle, on est chef de projet. On en a qui sont dans l'habitation durable. Enfin, il y a vraiment... Et donc, non seulement il y a une diversité de profils professionnels, mais il y a aussi une diversité de compétences qui, mises bout à bout, alors oui, on s'éparpille, c'est une évidence, mais en même temps, pour moi, c'est vraiment ça qui fait la créativité, la motivation du groupe. Et quand on se rencontre, on est tous là pour avancer sur le bien manger. Et c'est toujours tellement agréable d'être ensemble, tellement convivial. Et en fait, en l'espace de quelques mois, parce que la Campadoue, c'est très récent, ça date de septembre 2024, donc on a à peine 6 mois, on a quand même fait déjà... on est en train de mettre en place beaucoup de projets, on a déjà fait la conférence avec Renaud, on en a d'autres qui sont en train d'arriver. Ça dépote, quoi.
D'accord, on sent votre enthousiasme. Alors justement, dans le fonctionnement collectif, association, liberté totale, comment vous fonctionnez sur un tiers-lieu ?
Là, actuellement, donc, effectivement, on s'est regroupé en association, loi de 1901. Ça nous a permis également de monter un dossier de subvention au niveau de l'Europe. Donc, ça, voilà, ça permet de structurer, avoir une représentation par rapport également aux élus, à la communauté de communes. On travaille en collaboration complète avec le délégué, le chargé, donc, du développement agricole et alimentaire du pays de Fayence et les élus. Donc, ça fonctionne très bien. Voilà. On est même, nous, surpris de la vitesse où ça avance.
Et au niveau du financement, parce qu'il faut bien parler du financement, on vous demandait effectivement des intervenants gratuits sur des conférences, mais est-ce que vous avez besoin d'un budget et chaque association contribue ou chaque participant ou...
Alors, on est effectivement, voyez par exemple, le relais solidarité sur le pays de Fayence va chercher des invendus dans les magasins, alors que nous on va acheter les légumes au prix normal au niveau des producteurs. C'est très important pour nous que ces producteurs ait, comme à la MAP, là, une vision sur le long terme, puisse compter dessus. Et ça veut dire qu'il nous faut de l'argent. Donc, on a fait cette demande de subvention donc, dans un projet qui s'appelle Groupe d'action locale leader européen. Mais sauf que, gros souci, ils ont un fonctionnement spécial, c'est qu'il faut dépenser l'argent, avoir les factures, et on peut se faire rembourser qu'après et en deux fois sur les trois ans. Donc, ça veut dire qu'il faut que pendant l'année 2025, on fasse beaucoup d'activités qui nous rapportent suffisamment d'argent pour pouvoir commencer à distribuer ces paniers, alors qu'après, ben, on aura un peu plus de souplesse, pouvoir payer des intervenants, les diététiciennes, les gens qui vont montrer les ateliers, de façon à faire tourner ces projets.
Coralie, une précision ?
Oui, une petite précision aussi. Donc effectivement, il y a tout ce côté avec des demandes de subventions publiques sur lesquelles on travaille d'arrache-pied vraiment. Mais bah, on prend aussi les dons des particuliers. Donc, par exemple, on a une plateforme de financement participatif, voilà, où on a réussi pour l'instant à récupérer à peu près 800 ou 850 euros. Effectivement, pour démarrer les paniers qui demandent une très grosse trésorerie au départ, comme l'indiquait Bruno, avant qu'on puisse être remboursé de nos frais, on a besoin d'au minimum 4 000. Donc, j'encourage les auditeurs et les auditrices, s'ils le souhaitent, à contribuer.
On vous laissera le temps pour faire un appel à la fin de l'émission.
Voilà, c'est sur LOSO et en passant par le site de la campadou.fr.
Voilà, donc je crois qu'on a une idée globale de vos actions. On y reviendra un peu plus en détail ultérieurement. Moi, ce que j'aimerais qu'on évoque, c'est quand même la situation actuelle en France par rapport à l'alimentation. On a parlé effectivement de la nécessité de réserve. Différents prismes sont envisagés pour définir ce qu'on pourrait appeler mieux manger pour tous. Mais de quoi parlons-nous exactement ? Sur quoi voulez-vous mettre le focus, en fait ? La quantité, la qualité, l'aspect environnemental ?
Alors, je vais déjà remettre un tout petit peu de contexte aussi. Le CREDOC, donc le Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie, a fait une étude en 2023 qui indiquait que l'inflation alimentaire entre 2021 et 2023, elle est de plus 21%. C'est énorme. Je pense qu'on est tous d'accord, quand on va faire nos courses, ça devient de plus en plus compliqué. Donc ça, c'est pour le côté prix, le côté être capable d'acheter au moins des aliments. Mais il y a également aussi le fait que les ménages plus précaires ont une alimentation qui est moins diversifiée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, bah, des aliments qui sont un peu plus chers sont hors de leur portée. Par conséquent, bah, ils se remettent sur des aliments comme les céréales, qui sont moins chers, qui sont nourrissants, mais qui ne constituent pas une alimentation équilibrée. Donc dans ce contexte-là, évidemment, le mieux manger, déjà, il faut de la nourriture en quantité suffisante pour pouvoir supporter les besoins d'un être humain. Mais il y a aussi une grosse question de qualité. Donc encore une fois, c'est ce que je disais, il y a les ménages les plus précaires ont moins de diversité, et ça c'est important en termes de santé, de pouvoir manger des produits frais, et puis aussi des légumes et des fruits qui n'ont pas forcément d'intrants chimiques, quelque chose qui est en respect avec la terre. Donc ça, c'est la seconde chose. Et ensuite de ça, effectivement, il y a un côté environnemental qui est important, parce qu'une alimentation en court-circuit, avec moins d'intrants chimiques, bah, vous réduisez les transports, vous avez des cultures plus bio, et puis ça soutient aussi les producteurs locaux. Comme le disait Bruno, les maraîchers de la MAP sont des gens qui sont rémunérés à la juste valeur de leur travail.
Merci beaucoup pour ces précisions. Avant de poursuivre l'émission, nous allons prendre le temps d'une pause musicale avec Alimentaire, les enfants fantastiques.
Alimentaire, 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 alimentaire
Eh bien, nous poursuivons le thème de notre émission Parlons des droits humains, consacrée ce soir au thème de l'alimentation saine et durable, avec Bruno Bazire et Coralie Barbier de l'association La Campadoue. Donc, on a décrit dans une première partie d'émission ce qu'était La Campadoue, le contexte global, et notamment lié à l'alimentation saine et durable. Mais il y a un aspect qu'on pourrait rapidement évoquer, qu'on développera ultérieurement, c'est l'alimentation et la précarité alimentaire. Selon un rapport du Secours catholique qui a été publié récemment, en 2024, il y a près de 3 ménages sur 4 qui sont accueillis par les organismes tels que le Secours alimentaire, qui sont en état de pauvreté. Au niveau du pays de Fayence, qu'est-ce que vous avez pu constater par rapport à ça?
Ah, il y a une augmentation. Hein. Ces dernières années, il y avait à peu près 200 familles. On est maintenant à plus de 250 familles qui vont chercher toutes les semaines au relais solidarité leur panier. Donc, ils ont quand même le choix de dire il y a des choses qu'ils n'aiment pas et tout ça. Donc, il y a une petite sélection. C'est des produits qui sont récupérés dans les magasins. Mais c'est vraiment en augmentation et il y a une inquiétude des élus. Oui.
Et en termes de coût des paniers que vous proposez par rapport à l'alimentation qu'on peut trouver dans les grandes surfaces, est-ce que c'est meilleur marché ou pas?
Alors, les paniers de la MAP, aujourd'hui, il y a une enquête qui a été faite sur le réseau des AMAP de l'Isère. Alors, c'est évidemment un échantillon qui n'est peut-être pas national, mais néanmoins, donc, ils ont comparé le prix des paniers de la MAP versus le prix pour un panier équivalent aux moyennes et en grande surface en bio, donc des circuits longs, et aussi par rapport à des magasins de producteurs, donc en circuit plus court. Et donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est que pour les paniers de la MAP, en comparaison aux circuits longs, la MAP est à entre 10 et 21% moins chère. Et pour les circuits courts, donc les magasins de producteurs, la MAP est entre 3 et 9% moins chère. Pour des paniers qui sont produits localement, qui rémunèrent justement les agriculteurs qui les produisent, qui sont faits avec des critères quand même, alors même si ce n'est pas forcément du bio certifié, c'est quand même, il y a quand même une charte des AMAP à respecter, donc avec le moins d'intrants chimiques possibles, etc. Donc une qualité vraiment supérieure pour un prix qui finalement est moins important que ce que les gens pourraient croire.
D'accord.
C'est du plus, hein. Ça fait plaisir aux consommateurs, ça fait plaisir aux producteurs, aux agriculteurs, qui en plus, ils ont une valorisation puisqu'ils rencontrent les consommateurs. Il peut y avoir des échanges, des propositions de nouvelles plantes, expérimentations. On va en parler un petit peu plus tard des semences. Mais et tout ça, voilà, on peut gérer un budget serré avec une alimentation saine, justement en apprenant, et parce que ça tombe pas du ciel, il faut avoir quelques connaissances et c'est important de se faire accompagner là-dessus.
Vous évoquez la proximité, les circuits courts. Alors il y a un mouvement qui a été lancé, les locavores. Est-ce que vous pourriez dire deux mots de ce mouvement-là?
Alors, plus que deux mots, puisqu'on vient d'avoir la visite de Stéphane Linou, qui est le référent sur la résilience alimentaire et la sécurité alimentaire. C'est lui qui a fait prendre conscience au niveau national, c'est ça, que il peut y avoir. En fait, c'est le premier critère de révolution de la population s'ils ont plus à manger. Et ça se passe en 3 jours. Donc, on s'est rendu compte que dans les plans de sécurité, des plans alimentaires territoriaux, dans les plans, les DICRIM, les documents que les communes doivent faire pour les cas de risque majeur et tout ça, ils avaient carrément oublié l'alimentation. Alors que c'est celui qui risque d'être le plus prégnant, parce que il suffit donc d'avoir soit un problème international, soit un problème local. Hein, on a vu dans la vallée du Tinée et de la Vésubie, lorsque les routes ont été coupées par un épisode méditerranéen. La tempête Alex en 2020. Les gens n'avaient plus rien. Donc, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de stock, qu'il n'y avait pas de stock non plus au département, à part quelques stocks justement pour les ONG en cas de... mais pas à l'échelle de la population. Donc, il est venu encore la semaine dernière, Stéphane Linou, à Mons. Il a fait un défi locavore avec la cantine de Mons. Donc, tout a été fait dans un rayon de 50 km au niveau de l'approvisionnement. Ils ont évalué la charge en équivalent CO2, donc à 1,2 kg par repas, au lieu de 1,9 kg qui était dans l'objectif, et avec un coût extrêmement faible également.
Donc, 1,2 kg, 1,9 kg par rapport à...
Par rapport à
une alimentation classique.
C'est très compliqué à mesurer pour un... Parce que si on prend des légumes exotiques, si on fait venir tout de loin, ça peut exploser. Ça peut être plusieurs dizaines de kilos par repas. En tout cas, voilà. Il y a eu un électrochoc lors de cette matinée avec Stéphane Linou, de la part des élus, département, des élus locaux, les maires, et des différents spécialistes qui étaient là. On a l'impression que tout le monde va maintenant s'y atteler.
Alors, plus largement, vous avez évoqué donc les circuits courts. On a évoqué la précarité alimentaire. Lorsque la Campadou s'est mis en place, quels sont les axes de réflexion que vous avez réfléchi, que vous avez creusé pour mettre en place justement ce mouvement la Campadou? Parce que quand on met en place des systèmes, des tiers-lieux, et quand on met en place effectivement une alimentation locale, on ne claque pas dans les doigts pour dire du jour au lendemain, voilà ce qu'on va faire. Il y a beaucoup plus largement des problèmes de foncier agricole en particulier, problèmes de gestion d'eau, etc. Comment ça s'est passé?
Voilà, alors, effectivement. Donc, ces ateliers participatifs qu'il y a eu depuis 3 ans, et le PAT, voilà, c'est une vision globale. Il faut regarder, on a un gros souci d'approvisionnement en eau, donc il y a un projet de puiser de l'eau du lac de Saint-Cassien pour envoyer un réseau d'eau agricole. Et donc, tout ce qui est que l'on peut desservir avec ce réseau, eh ben, on va privilégier l'installation des nouveaux agriculteurs ou l'expansion des exploitations actuellement sur ces terrains-là, parce qu'elles vont avoir une sécurisation de leur irrigation. Donc, il y a ça. Il y a ensuite faciliter... la distribution, et ça en utilisant déjà les écoles dans la loi Egalim, maintenant on doit avoir un certain pourcentage de produits locaux et bio, et donc on est à Mons, on va atteindre 70%, on a 70% de local et bio, donc toutes les communes sont dans cette démarche là, peut-être pas à ce niveau là, mais en tout cas ça bouge vraiment à ce niveau là et pareil, donc, il faut aussi que les consommateurs soient sensibilisés et regardent qu'ils sont peut-être en train de se rendre malades avec certains produits achetés dans les grandes surfaces et qu'ils peuvent avoir une santé bien meilleure en utilisant les produits locaux, en soutenant ces agriculteurs locaux et les paysages aussi, on pourrait dire ça, hein, au lieu d'avoir des constructions... de zones artisanales, de continuer à avoir des champs cultivés.
Alors on a évoqué l'eau, vous avez évoqué l'eau, le foncier, parce que c'est pas tout de dire on va développer l'agriculture locale, encore faut-il avoir des terrains à cultiver. Et de ce point de vue-là, je voudrais étendre la réflexion. Quels sont les liens que vous avez avec les chambres d'agriculture, par exemple, les administrations locales, qui vous permettent, ou pas d'ailleurs, de pouvoir étendre le foncier et développer vos activités?
Alors à ce niveau-là, c'est plutôt effectivement la Comcom qui s'en occupe.
La Comcom?
La communauté de communes.
D'accord, merci.
qui s'en occupe avec les chambres d'agriculture. Pour l'instant, on n'est pas encore vraiment conviés, bien qu'ils viennent parfois. Donc, par exemple, avec les Stéphane Linou, ils étaient là. L'idée, effectivement, c'est qu'on a maintenant des zones agricoles protégées, qui sont définis, donc qui sont proposés à des propriétaires avec des avantages au niveau des taxes, au niveau de la succession, de façon à sanctuariser des terres agricoles à destination d'une production locale. Et ce que nous, on essaye au niveau de l'association, c'est de se dire, ne nous limitons pas à des terrains agricoles, mais pensons également à des zones dites N, naturelles, hein, dans les plans d'urbanisme, de façon à ce que des plus petits producteurs qui n'ont pas forcément tous les diplômes qu'il faut pour rentrer dans les fourches codines de la chambre d'agriculture puissent quand même développer une activité agricole locale et qu'on ait accès à plus de résilience sur le territoire.
Alors, en termes de résilience, tout à l'heure, vous disiez que dans le Var, vous avez 3% d'autoproduction.
Oui, à part le vin.
Avec ce projet-là, vous pensez augmenter significativement le pourcentage, disons, d'autoproduction?
C'est un impératif. C'est vraiment un impératif. On sait que ça va être plus compliqué avec le dérèglement climatique, avec les inondations, avec des pays qui ont été ravagés, qui n'ont pas assez de production chez eux. Donc, ils vont aller acheter sur d'autres pays qui vont faire monter les prix internationaux et tout. Donc, il faut absolument qu'on puisse avoir un peu plus d'autonomie, de souveraineté également alimentaire. Et donc, il faut monter 5, 10, 25% et peut-être même plus. Même si on a besoin d'avoir une vision un peu régionale, puisque on a plutôt les départements du nord de PACA qui sont avec des pommiers, avec différents types de production, plus de maraîchage dans le Vaucluse. Mais n'empêche qu'il faut qu'on développe aussi.
Coralie, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Oui, moi je pense que le rôle de la Campadou là-dedans, c'est sûr que tout seul, augmenter ce pourcentage, ça va être compliqué. Je pense que le rôle qu'on peut vraiment avoir, nous, c'est un rôle d'éducation et un rôle aussi de travail avec les autorités. Il y a beaucoup, beaucoup de motivation dans cette association. Il y a un travail qui est fait de manière très proche et collaborative avec la communauté de communes, les communes et divers intervenants. Et je pense qu'il y a une vraie volonté de la communauté de communes, justement, d'évoluer dans ce sens. Et nous, c'est aussi d'être là avec eux, de les encourager, et puis de, à notre échelle aussi, faire ces petites activités, ces petits projets qui vont, plus ou moins gros projets d'ailleurs, qui vont pouvoir aussi emmener la population avec nous et faire prendre conscience du problème à une plus large échelle pour qu'en fait les gens, une fois sensibilisés, demandent aussi aux élus des comptes et que les choses doivent évoluer.
Quand ça arrive de l'État de dire « Ok, vous faites un plan alimentaire territorial, ils font venir des bureaux d'études qui vont remplir des dossiers, qui vont renvoyer le dossier », si c'est pas appuyé sur le territoire avec des gens, des producteurs, mais aussi les habitants, les citoyens, ça fonctionne pas, ça sert à rien. On en a vécu plein des systèmes comme ça. Et là, d'un coup, ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe sur le territoire et sur le Pays de Grasse aussi. Là, en ce moment, n'hésitez pas à vous brancher là avec la 4G. Il y a des choses qui se passent chez vous aussi.
Nous aurons l'occasion d'en parler le mois prochain, justement.
Génial.
Donc, j'aimerais qu'on rentre finalement un peu dans le détail de ces associations qui composent la Campadou. Est-ce que vous pourriez nous reciter quelles sont ces différentes associations et ce qu'elles apportent en termes d'action, de réalisation, de projet, Coralie?
Oui. Alors, on les a cités déjà au départ, donc je vais les reprendre. Donc, on a l'ABI, l'Association Bagnolaise d'Information. Donc, cette association, c'est vraiment une asso pour la préservation de l'environnement dans l'Est varois. Il y a beaucoup, notamment, d'actions sur tout ce qui est réduction de déchets. Quand on parle de réduction de déchets, on a également Composterie, qui propose des actions citoyennes sur les déchets.
Sur le compostage aussi, ce qui est très, très important.
D'où le nom, effectivement, j'aurais dû le dire. Ensuite, on a donc la MAP du Pays de Fayence et Court Circuit, qui sont vraiment deux associations pour du circuit court, entre les producteurs et les consommateurs. Donc la MAP, c'est plutôt les produits frais, les légumes, les œufs, la viande, les laitages. Court Circuit, c'est effectivement, il y a une partie de frais, mais il y a également du sec, pareil, le plus local possible.
Quand vous dites le plus local, c'est dans un périmètre
Alors, par exemple, la MAP, c'est un rayon de 100 km.
100 km, oui.
Voilà.
Et quand même, Court Circuit peut aussi aller acheter des choses plus lointaines, mais en circuit direct, c'est-à-dire directement avec des producteurs qui viennent livrer. Donc, c'est arrivé, par exemple, que viennent de Sicile certains produits, parce que le camion part de Sicile et va distribuer différentes AMAP, d'épicerie comme ça, en direct. Quoi. Il n'y a pas d'intermédiaire.
Quand ça vient de Sicile, le coût carbone augmente légèrement quand même, hein?
Oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai pris l'extrême, ce qui est rare. Quand même.
Le collectif donc Demain Pays de Fayence, est-ce que vous pouvez nous rappeler?
Oui, donc comme je le disais tout à l'heure, on essaye de toucher à tout ce qui est la transition écologique d'une façon systémique. Pourquoi? Parce que si on prend tous les problèmes d'une façon séparés, en silos, comme on dit maintenant, eh ben, on a du mal à faire du lien. Et on voit là, par rapport à l'alimentation, l'intérêt de faire cette transversalité dans ces disciplines. Parce que si on veut avoir des nappes phréatiques qui ont une eau qui est potable et qui n'est pas polluée, si on fait que des projets d'urbanisme qui ont un impact extrêmement fort et qui nous réduisent les terres agricoles, c'est cette vision globale du ménagement du territoire. On n'est plus dans l'aménagement maintenant, on est dans le ménagement. On y va avec des pincettes et on essaye d'entreprendre tous les futurs projets avec cette préciosité.
Une chose qui paraît intéressante, c'est que vous avez non seulement des associations de consommateurs, mais également des producteurs dans la Campadoue. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Oui, exactement. On a plusieurs maraîchers et maraîchères, dont par exemple une qui est en agroforesterie et qui est celle qui nous produit les légumes pour la MAP et également pour court-circuit.
Alors, agroforesterie?
Donc, c'est utiliser la couverture végétale des sols. Pour en gros, c'est avoir une agriculture où on essaye de prendre en compte le milieu pour être en adéquation avec lui. Et peut-être que toi, Bruno, tu sauras un petit peu mieux que moi le définir.
Alors, également, elle utilise quelque chose qui est super intéressant, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre des produits, donc pas de produits chimiques, mais même des produits acceptés par l'agriculture biologique, c'est d'utiliser des insectes. Donc, qui vont effectivement manger les pucerons. Donc, on appelle ça, j'ai le terme qui me...
La lutte biologique.
La lutte biologique, voilà. Donc, avec le vivant et pas contre.
Oui.
Ensuite, on a donc Cécile, donc des Jardins de la Rainette, qui, elle, porte déjà le projet des semences. Donc, l'idée, c'est de travailler sur le concept des semences paysannes et de regarder des semences qui sont parfaitement adaptées actuellement au territoire, mais aussi en fonction du dérèglement climatique. Donc, quelles sont celles qui vont mieux résister et essayer de développer une sorte d'identité sur certaines semences et les mettre en avant en travaillant avec des cuisiniers, des restaurants du territoire en disant, regardez... Voilà, ça c'est quelque chose qui est identifié. On a déjà identifié quelques semences qui sont assez spécifiques au pays de Fayence.
Et donc la Campadoue va faire le lien entre ses producteurs et puis les restaurateurs.
C'est ça, exactement.
L'idée, c'est d'avoir vraiment pour le projet Semences Paysannes, qui est majoritairement mené par Cécile, l'idée c'est de créer un groupe en fait d'acteurs donc divers et variés. Ça peut être des jardiniers amateurs, ça peut être des maraîchers, des personnes qui ont qui sont intéressés tout simplement par ce genre de questions et qui travaillent ensemble justement pour identifier des semences qui pourraient être adaptées à notre territoire, pour aussi voir comment les développer. Est-ce qu'il y a des débouchés aussi pour les commercialiser? Parce que si on produit pour un maraîcher, il faut quand même qu'il y ait de la commercialisation derrière. Et donc, c'est vraiment mener toute une réflexion sur ce sujet-là pour qu'à terme, effectivement, on développe la résilience alimentaire du territoire grâce à des semences qui sont réellement adaptées à là où on vit.
D'accord. Donc, quand on a parlé de la Campadou au début, vous nous avez donné l'exemple d'actions concrètes que vous réalisez à travers les panneaux solidaires, hein, par exemple. Quel impact vous espérez avoir sur le long terme? Parce que là, ce sont des initiatives locales, mais qui ont vocation à durer dans le temps. Quels sont vos objectifs?
Alors, je pense que pour le projet de panier solidaire en particulier, pour moi, il y en a plusieurs. Le premier, c'est vraiment de faciliter, encore une fois, l'accès à une nourriture de qualité aux familles les plus précaires. Donc là, nous, notre idée, c'est en gros, c'est un projet qui va déjà s'étaler sur 3 ans. Donc, tous les 6 mois, c'est avoir 5 familles qui vont pouvoir bénéficier des paniers, puis ensuite trouver une manière de les accompagner pour qu'une fois qu'on change de groupe de famille, elles puissent continuer à avoir accès à ces paniers-là, peut-être à des prix préférentiels, ou trouver une manière de les accompagner, d'avoir cette éducation. Cette sensibilisation au mieux manger est vraiment l'importance de l'alimentation pour notre santé, pour l'environnement, pour l'avenir de nos enfants aussi. Ça, je pense que vraiment, la Campadou, pour moi, c'est vraiment le cœur de notre mission puis du travail qu'on veut mener. Et puis, comme je le disais tout à l'heure aussi, c'est de travailler avec les élus à la résilience alimentaire de manière générale, en les encourageant, en montant un projet qui est quand même très positif, qui va créer de l'inclusion sociale, de la mixité, de la convivialité, du partage.
Donc, quand vous parlez de mixité, d'inclusion, il faut toucher les gens, il faut qu'ils se sentent concernés, il faut qu'ils soient informés. Hein, comment vous faites pour justement aller au-devant des gens, d'une manière générale, des collectivités, des associations comment vous faites?
Alors, là, ce n'est pas dans notre compétence. Donc, du coup, on s'appuie sur les gens pour qui c'est leur compétence, qu'ils les connaissent. Hein, donc, ça peut être la communauté de communes, j'en parlais tout à l'heure, le relais solidaire, le relais solidarité du pays de Fayence. Mais ça peut être aussi les institutions avec qui on est déjà en lien et qui vont proposer à ces familles, quelque part, une sorte de, on pourrait dire un contrat, c'est un peu dur, mais en tout cas un engagement de leur part, comme quoi, OK, ils ont accès à ces paniers, mais ils ont une forte, incitation, merci, de participer à ces ateliers pour apprendre à cuisiner ces légumes de saison et puis comprendre pourquoi l'alimentation peut être intéressante pour leur santé.
Oui, Coralie.
Et donc là, c'est plus spécifiquement peut-être pour les paniers solidaires. En termes de rencontres, il y a aussi quand même le fait qu'on fait des conférences et des ateliers. Donc là, les ateliers, par exemple, on va aller en médiathèque. On va faire le tour un petit peu des médiathèques du canton pour pouvoir avoir la chance de rencontrer notamment des enfants. Donc on va travailler avec des écoles pour faire des ateliers. Les conférences, donc celles qu'on a fait avec vous la dernière fois, donc qui sont vraiment des moments où on peut justement avoir des gens qui sont intéressés par un sujet, leur parler de notre projet, essayer de les investir un petit peu davantage. Voilà, puis ensuite de ça, je trouve que le projet de semences paysannes, qui est peut-être un petit peu plus technique, reste quand même très collaboratif avec l'idée d'impliquer tous les gens qui pourraient être intéressés par cette question de semences plus adaptées à chez nous.
Vous avez mentionné vos actions dans les médiathèques et également vos actions auprès des enfants. Ça, il y a un aspect qui me paraît particulièrement crucial, c'est l'éducation. Mm-hmm. Parce qu'il ne se suffit pas d'informer les gens de ce qui existe, mais également de les sensibiliser à ce que demain va nécessiter. Est-ce que vous avez auprès des établissements des actions éventuellement qui sont suivis dans le temps pour faire avancer le sujet?
Alors,
les actions
on a effectivement commencé il y a peu de temps, donc on n'a pas encore plein d'actions, mais on a plusieurs enseignants qui sont dans l'association et donc aussi bien au niveau des petites classes. On va avec également la communauté de communes pouvoir sensibiliser les cantines. Donc les chefs, et d'apporter, par exemple, on parlait des semences tout à l'heure, hein, si on arrive à développer une identité particulière là-dessus. Et donc, on a également d'autres projets qui sont mettre les mains dans la terre. Si on arrive à avoir ce lieu, déjà c'est de travailler avec les jardins partagés. Il y en a qui existent, mais si on peut aussi avoir un lieu, si une commune ou un mécène nous met à disposition un local où il y a un peu de terre, l'idée, c'est ça, c'est de faire plein d'activités ludiques même, où on va aller dans les jardins.
D'accord. Alors, je pense qu'en dehors de la Campadou, vous avez un certain nombre de partenaires associatifs avec lesquels vous pouvez travailler. Très rapidement, je pense à l'espace de vie sociale La Calade, les AD des Taillades de Seyans, le Nouveau Journal, le Relais Solidarité, les Jardins de la Rainette, etc. Est-ce que sur un ou deux, vous voudriez mettre rapidement l'accent, justement pour mettre en valeur les liens que vous avez avec eux et ce que vous faites comme action avec eux?
Donc effectivement, il y a eu déjà des interactions avec le Relais Solidarité qui, eux, distribuent toutes les semaines ces paniers à des gens. Donc c'est une très bonne porte d'entrée pour sensibiliser les gens qui seraient intéressés pour passer à ces paniers solidaires, locaux. La Calade, ils ont déjà, par exemple, des repas, des ateliers cuisine qu'ils font. Donc on va pouvoir travailler avec eux sur des ateliers cuisine en orientant sur des légumes de saison, ou des légumes moins utilisés, comme les panais ou les patates douces, des choses comme ça.
Relais solidarité.
Le relais solidarité, donc c'est ça que je viens de l'évoquer là. Les AD des Taillades, c'est donc un endroit où des personnes en situation de handicap avait déjà commencé sur il y a longtemps à travailler sur une production agricole, mais ils sont passés sur autre chose. En tout cas, ils ont une grande, ils ont une ouverture pour qu'on reprenne contact avec des projets en commun avec eux. Le nouveau journal, qui est un journal donc local, écrit par l'ensemble des habitants du territoire, est là avec nous depuis le début. C'est quand même un relais important, intéressant pour la communication. Hier, j'étais avec Bioconsommateur Mère Estérel, c'est une association nationale, et on a un relais local, donc qui sont aussi basés sur la sensibilisation, donc on va faire des actions également avec eux.
Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien. Nous allons terminer, après la prochaine pause musicale, par l'avenir, de quelle manière vous l'envisagez. Nous écoutons maintenant Paysannes, paysans par les Glotrebelles.
Terminons notre émission Parlons des droits humains, consacrée ce soir au thème l'alimentation saine et durable, avec Bruno Bazire et Coralie Barbier de l'association La Campadou. Donc la dernière question qui avait été proposée, c'est comment envisagez-vous l'avenir ?
Une vaste question, je pense qu'on aura besoin de plus de 3 minutes pour en parler. Blague mise à part, moi je suis assez sereine, je suis assez optimiste, parce que je trouve que le projet de La Campadou, il bénéficie de beaucoup de soutien au niveau de la collectivité. La première conférence qu'on a pu faire, elle a aussi reçu beaucoup d'enthousiasme de la part des gens qui étaient là. On a eu l'occasion de parler avec des gens qui nous ont fait part de leur intérêt pour le projet, qui trouvent que c'est un sujet qui est très important. Donc moi, vraiment, je suis assez sereine. Maintenant, il reste à mettre en place les actions qu'on a en tête pour faire tout ce qu'on veut faire. Donc pour récapituler un petit peu les projets 2025, ça va être des conférences, des ateliers pour le côté vraiment éducatif. Ces paniers solidaires, c'est vraiment notre projet phare, celui qui nous tient le plus à cœur, je pense, qu'on voudrait lancer en septembre, une fois qu'on aura réussi à récupérer, à collecter suffisamment de trésorerie pour pouvoir le faire. Et puis créer ce groupe pour parler de semences paysannes et développer ce sujet dans le pays de Fayence.
Merci. Bruno, un dernier mot ?
Ah oui, il nous faut des sous.
Comment peut-on vous aider ?
Alors, on a un Hello Asso. On peut retrouver le lien sur le site lacampadou.fr, lacampadou en un seul mot. Et puis, aussi bien des particuliers que des entreprises, des mécènes et tout ça, parce que si on a plein d'argent, on pourra aider plein de gens et faire beaucoup de travail. Donc,
merci à vous de votre intervention. J'espère qu'on aura suffisamment intéressé nos auditeurs pour que vous puissiez encore plus développer votre projet. Donc, à l'attention de nos éditeurs, vous pouvez réécouter cette émission, soit en téléchargeant sur le site d'Agora Côte d'Azur, soit lors de la rediffusion le lundi 3 mars à 21h. Et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission « Parlons des droits humains » qui aura lieu le lundi 17 mars pour la poursuite de ce thème avec des représentants de la communauté d'agglomération en Pays de Grâce. À bientôt, bonne soirée.